Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
La religion du djihadisme. Bonjour à tous et toutes. Pour beaucoup de commentateurs et d'universitaires, la religion et la culture ne sont jamais pensées comme des variables indépendantes, jamais pensées comme ce qui explique, mais toujours comme des variables dépendantes, comme quelque chose qui doit être expliqué. Pour comprendre la violence du radicalisme religieux, ce n'est pas vers la religion comme système de représentation structurant qu'il faudrait se tourner, mais vers des phénomènes sans rapport direct avec le religieux, des déterminismes sociaux ou économiques, des frustrations, des fragilités psychologiques ou encore des résistances à la domination postcoloniale. Dans cette vision, le religieux n'est jamais pris au sérieux, car il ne serait en dernière instance que du politique déguisé. La religion ne pourrait jamais être centrale dans les représentations et les mentalités des individus, car elle céderait nécessairement devant la raison. Elle serait toujours le masque d'autre chose, la détresse, la révolte, la dérive, une illusion, une idéologie. Bref, il n'y aurait pas d'autonomie du religieux. Pour expliquer les attentats de 2015, on a donc réduit à néant le rôle déterminant de la religion dans l'engagement des jeunes pour le djihad, dans leur espoir qu'advienne un nouveau califat ou dans le passage à la violence. Alors même que ces hommes qui prennent les armes se réclament explicitement de la religion et utilisent une phraséologie reconnaissable entre toutes, celle de la dénonciation des impies, des croisés, des juifs, des mécréants. Une phraséologie du messianisme religieux qui sous-tend le passage à l'acte et écrit une eschatologie mortifère au cœur même de l'islam. Faut-il alors toujours accorder une telle primauté aux conditions sociales? Ne peut-on comprendre la violence fondamentaliste comme un phénomène social total, relevant dans le même mouvement du politique, du religieux, du culturel et du social, sans essentialiser des notions qui marchent ensemble dans la pratique? Pourquoi en particulier la gauche s'aveugle-t-elle dans ses analyses du terrorisme islamiste et continue de penser que pour tous les individus, le social serait l'échelon depuis lequel le monde est pensé? Par un extraordinaire retournement, la religion est ce dont on ne parle plus quand on évoque l'islamisme, même pour acter qu'il s'agit d'une spiritualité dévoyée. Il y a là un déni, un silence religieux à propos de la religion comme matrice de la radicalisation. Ce silence religieux donne son titre au livre de mon invité Jean Birnbaum qui écrit ceci. Ce qui est en jeu, c'est la réticence désormais à envisager la croyance religieuse comme causalité spécifique et d'abord comme puissance spécifique. La foi, personne n'y croit. Or si l'on veut comprendre ce qui s'est joué dans les attentats de 2015, il faut prendre le facteur religieux au sérieux, car il l'est pour les terroristes eux-mêmes, il est même central dans leur action, comme il l'est dans leur vie. Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour Emmanuel, bonjour, merci.
Merci à vous d'être venu. Jean Birnbaum, vous êtes essayiste, vous avez publié plusieurs ouvrages d'analyse politique et vous êtes journaliste au Monde où vous dirigez le Monde des Livres. Et vous avez publié début 2016 un ouvrage intitulé « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme » qui est paru aux éditions du Seuil, donc cette année 2016. Alors Jean Birnbaum, si on veut expliquer ce déni du religieux, est-ce qu'il ne faut pas d'abord partir ou d'abord prendre en compte le poids de la sécularisation dans nos sociétés? C'est-à-dire que, au fond, pour beaucoup d'analystes, le religieux ne peut pas faire sens pour les individus parce que ces analystes eux-mêmes vivent dans des sociétés, au fond, laïcisées, sécularisées depuis longtemps.
Oui, bah tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, bien au-delà de la gauche, qui est le sujet spécifique du livre, il y a bien sûr, bien au-delà pour nous tous, et notamment pour les Européens, en particulier, des siècles de sécularisation qui jouent, comme vous le dites très bien, et qui font que on a un peu oublié la puissance du spirituel, la puissance de ce que peut être la religion comme mode d'être au monde, comme certitude vécue, comme rapport à la nourriture, au temps, à des partages entre le bien et le mal, entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, enfin tous ces gestes ordinaires qui pendant des siècles ont fait l'ordinaire justement aussi de l'Occident, cet être au monde ou cet horizon sans lequel auparavant et pendant très longtemps nous autres Européens ne pouvions pas penser le pouvoir, l'autorité, mais aussi le quotidien, c'est l'expérience la plus quotidienne et ordinaire, et bien tout ça on a un peu oublié que ça a existé et on est, comme le dit Marcel Gauchet à sa manière, sorti du religieux depuis bien longtemps, ce qui fait que quand le religieux revient, d'une manière ou d'une autre, sous ses formes spirituelles, de quête, de sagesse, de pèlerinage intérieur, ou sous ses formes de politique parfois sanglante, eh bien, on a beaucoup de mal à le voir. On a l'impression que c'est toujours d'autre chose qu'il s'agit.
Le religieux est plus structurant de l'État, mais il est structurant pour des millions d'individus dans leurs pratiques quotidiennes, dans leurs gestes, ce que vous disiez. Et au fond, ce religieux-là, il s'est réfugié dans la sphère privée où on l'avait laissé en 1905 et il s'est développé là, mais on a tendance à ne plus le voir, à l'occulter.
Oui, à l'occulter et puis à effectivement en faire une sorte de je sais pas comment dire, presque de maladie de la peau, si j'ose dire, ou de maladie, c'est-à-dire que alors là c'est pas le religieux dont il s'agit avec le djihadisme, c'est pas le religieux en tant que tel, c'est sa perversion fanatique ou sanglante. Mais c'est vrai que par exemple quand on voit tout ce débat autour de la déradicalisation, de ces cellules de déradicalisation, on voit bien qu'il y a l'idée que quand même c'est comme une espèce de pathologie ou de maladie dont il faudrait soigner les maux ou les manifestations ou les symptômes, comme si quiconque se réclamait de Dieu, alors soit pour une quête spirituelle, soit pour des choses beaucoup plus brutales et sanglantes, de toute façon, était vu comme quelqu'un qui était un peu, soit un peu attardé ou un peu malade. Et donc, effectivement, parce que non seulement parce que tout ça, nous l'avons refoulé dans le passé, et parce qu'aussi, c'est une espèce de double renvoi dans le passé, non seulement on a oublié la puissance du religieux, mais en plus, et c'est la conséquence, c'est les deux faces d'une même médaille, on a l'impression que le religieux, forcément, est une sorte d'archaïsme appelé à disparaître, à être dissipé par le progrès. Et ça, c'est quelque chose de, c'est une sorte de bain dans lequel on a grandi. Alors que, comme le disait Michel de Certeau, ce philosophe qu'on est très nombreux à admirer, il dit, voilà, pendant très longtemps, la religion a été l'air sans lequel on ne pouvait respirer. C'était ce qui donnait son sens et sa nécessité à notre action.
La séparation du religieux et du politique est en fait extrêmement récente. Dans un texte en défense de l'écrivain Kamel Daoud, la romancière franco-tunisienne Fawzia Zouari écrivait à propos de l'islamisme « Nous refusons le refus de l'amalgame ». Est-ce qu'une des formes du déni du religieux n'est pas de séparer l'islamisme de l'islam ?
Ben c'est un débat très compliqué parce que évidemment on ne peut pas parler de tout ça si on fait quand même pas un peu la différence entre les deux. Moi j'ai tout un chapitre qui s'appelle « Rien à voir avec l'islam » ou point d'interrogation où j'essaie de montrer à la fois qu'il faut évidemment affirmer qu'il y a un rapport entre l'islamisme et l'islam, que l'islamisme s'exerce au nom de l'islam et que ce qui s'exerce au nom d'eux c'est pas rien, et que donc l'islamisme est un prolongement, un avatar meurtrier ou violent de l'islam. Et en même temps, je cite aussi tout un tas de gens qui donc tiennent bon sur cette différence pour essayer de montrer que c'est pas la même chose, bien sûr, qu'il y a une spiritualité musulmane ou islamique qui n'est pas du tout sanglante ou qui n'a pas de prétention à mettre la main sur l'espace public ou à régenter la vie de tout le monde, etc. Mais que quand même, il est difficile de tracer une ligne de partage nette. Tous les critères qu'on utilise pour tracer une frontière nette entre islam d'un côté et islamisme de l'autre se révèlent compliqués. Par exemple, moi je suis très influencé, on m'a reproché, certains lecteurs du livre très savants m'ont dit mais vous êtes trop influencé par Christian Jambet et par cette tradition d'islamologie issue justement d'un monde chrétien, Louis Massignon, Henri Corbin, etc. On m'a dit vous êtes dans ce truc qui est de distinguer entre d'un côté un islam comme spiritualité, comme mise en mouvement des textes dans leur pluralité, comme exégèse symbolique, etc. Et de l'autre côté, l'islamisme qui serait une sorte de vitrification du texte dans une volonté de mettre la main sur la politique et de vitrifier la politique et le texte dans une forme de grimace comme ça, doctrinaire et juridique aussi. Et en fait, ça fonctionne pas tout à fait parce qu'il y a des gens qui sont du côté du spirituel et qui peuvent quand même avoir des velléités violentes. Alors on m'a dit ça marche pas. Et en fait, tous les critères qu'on utilise fonctionnent toujours assez mal et en même temps, je ne crois pas qu'on puisse céder sur cette distinction, sinon, alors là, on considère qu'il y a un milliard d'islamistes et que vraiment, on est très mal barré. Alors en fait, évidemment qu'il y a mille sources et là, on peut d'ailleurs mobiliser à nouveau Corbin, Jambet, etc. parce que ce sont tous des pèlerins de l'Occident ou des pèlerins de l'Orient. C'est tous des gens qui n'ont jamais cessé de partir sur les traces des trésors spirituels de l'islam qui sont immenses et donc il ne faut pas non plus céder là-dessus.
Les attentats du 13 novembre ont été revendiqués par Daesh, à la fois dans un texte et dans une chanson. Je vais lire simplement le début du texte de revendication. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le très haut a dit, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah, mais Allah est venu à eux, par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants des soldats du califat, qu'Allah lui donne puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. » On va rester sur ce religieux comme moteur de l'action. On va écouter l'universitaire arabisant Gilles Kepel qui était interrogé sur BFM TV au début de l'année 2015.
les terroristes essaient d'importer la guerre contre les chrétiens d'Orient sur notre territoire?
Aujourd'hui, on est dans un univers où il n'y a plus véritablement ni Orient ni Occident, puisqu'on est dans l'univers du virtuel. Tout le monde regarde les mêmes réseaux sociaux de Daesh, que ce soit à Mossoul ou ici. On a vu ce week-end ces scènes absolument épouvantables d'assassinats de chrétiens éthiopiens en Libye. On avait vu celles des Coptes d'Égypte également en Libye, qui sont aussi chrétiens. J'étais moi-même au Kurdistan il y a à peu près un mois, et j'ai pu parler avec de nombreux chrétiens de Mossoul qui avaient dû fuir pour leur vie quand on avait annoncé l'arrivée de l'État islamique. Ce qui est très frappant, c'est que les djihadistes d'aujourd'hui ne font plus la différence qu'on fait dans l'islam traditionnel entre les chrétiens, les juifs, les gens du livre, le pluralisme dans l'islam. Pour eux, il y a uniquement le groupe auquel ils appartiennent, qui sont les seuls vrais musulmans, et tous les autres sont soit des impies, soit des hérétiques, soit des apostats, qui, pour des raisons diverses, méritent la peine de mort. Et donc on a cette espèce de vision complètement sectaire, fermée, qui est celle du salafisme-djihadisme, qui est nourrie en abondance par toutes ces images qui arrivent sur les réseaux sociaux, si vous voulez.
La valeur de l'homme, la religion du djihadisme, nous sommes en compagnie de Jean Birnbaum. Jean Birnbaum, on l'a entendu, Kepel le dit, et puis dans le petit moment que j'ai lu, la revendication, elle est complètement religieuse, elle n'est pas simplement teintée de religion, elle est vraiment dans une phraséologie complètement religieuse qui laisse à penser que les motifs de l'action violente sont essentiellement religieux. Est-ce qu'on peut explorer ça?
Oui, c'est vrai qu'on a du mal à l'entendre. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans votre belle introduction tout à l'heure. On croit toujours que la religion dans tout ça n'est qu'un voile. Il y a ce petit livre là d'Alain Badiou qui est sorti, qui a pas mal de succès. Vous savez, Alain Badiou, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un philosophe qui se réclame du communisme, mais qui est aussi le philosophe français le plus lu et le plus traduit à l'étranger aujourd'hui. Et il parle de voile justement. Il parle de vêtements. Il dit ça n'est qu'un vêtement, la religion dans tout ça. Ces gens sont des fascistes, des bandits, ils veulent des filles, de l'argent, etc. Et il a une analyse qui est complètement dans cette tradition de la gauche radicale ou pas radicale, qui est de réduire effectivement le religieux à un vêtement. Donc toutes ces déclarations que vous avez lues, ce que dit Kepel, tout ça ne serait qu'un vêtement qui viendrait voiler le réel, qui lui ne peut qu'être économique, social, géopolitique, etc. Alors que, bien sûr, il faut prendre en compte ces facteurs géopolitiques, sociaux, politiques, mais quand même, la religion dans tout ça est extrêmement centrale. Il arrive parfois, comme le disait un autre philosophe, Michel Foucault, que la religion ne soit pas un voile ou un vêtement, puisqu'il utilise le même mot. Il dit c'est pas le voile à ce moment-là, c'est le visage même de la politique ou de la révolte ou du réel. Et donc, oui, quand on écoute les revendications, la capitale des abominations, l'attaque bénie, etc., quand on voit les gestes aussi qui sont, alors, Gilles Kepel parlait des Coptes, effectivement, il disait, ils font plus la différence même au sein des musulmans. Moi, j'ai lu les passages d'un livre qui raconte comment les gens en Syrie, l'État islamique, ils arrêtent des camions où il y a des soldats, et les transports de troupes, et puis ils se contentent juste pour décider de leur sort, de leur dire « allez-y, priez ». Mmh. Et à la façon dont les gens prient, ils décident s'ils vont les laisser en vie ou s'ils vont les abattre d'une balle dans la nuque ou autre. C'est-à-dire que tout est en permanence, exactement comme quand ils font le tri, quand ils font une prise d'otage et que quelqu'un qui sait réciter une sourate du Coran est épargné, puis les autres sont. Donc il y a en permanence. Là, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas juste dans la revendication. On voit bien que non seulement dans la façon de revendiquer, mais aussi dans la façon de se comporter physiquement et de façon vitale avec autrui, le facteur ou ce que véritable l'allégation religieuse est omniprésente. C'est-à-dire que dans leur univers de pensée, oui, c'est en permanence, dans leur discours, sous leur plume, des révélations prophétiques, des versets du Coran, des anges protecteurs, tout ça est omniprésent, même dans leurs vidéos, c'est extrêmement présent. Et donc, il y a ce discours apocalyptique, cette eschatologie meurtrière, je crois que vous citiez vos mots tout à l'heure, qui est omniprésente. Et si on évacue tout ça en pensant que ça n'est qu'un voile, que ce n'est rien, et que c'est tout, qu'en fait, le réel, la vérité de tout cela n'est pas religieuse, mais simplement sociale ou politique, je crois qu'on passe quand même à côté de la vérité des choses.
Alors précisément sur ce déni, on va en venir au cœur de ce qui fait votre livre, vous montrez qu'il y a un déni du religieux dans l'action politique à différents moments de l'histoire. Et par exemple, vous montrez comment lors de la guerre d'Algérie, la gauche française soutient du FLN FLN n'a pas voulu voir que le FLN portait aussi un islam politique dans des discours et qui finalement s'est installé en partie en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur cette période-là?
Oui, c'est un moment, à mon sens, effectivement clé, parce qu'il y a une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche qui effectivement a été compagnon de route et camarade de combat du FLN nationaliste et qui a lutté non seulement contre la torture en Algérie, mais pour l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est la grande tradition anticoloniale, etc. Et cette gauche-là n'a pas vu ou n'a pas voulu voir qu'au cœur du programme du FLN, il n'y avait pas seulement le tiers-mondisme, le socialisme, au cœur, vraiment de façon structurante, il y avait l'islam, qui, pour certains sociologues qui ont travaillé, certains chercheurs, les rares chercheurs qui ont bossé là-dessus, montre que finalement, s'il n'y avait pas eu cette énergie religieuse sur laquelle le FLN a misé, eh bien, le FLN n'aurait jamais eu les troupes et n'aurait pas été capable de mobiliser le peuple algérien comme il a été capable de le mobiliser. Et la gauche qui soutenait le FLN n'a pas vu, par exemple, cet exemple tout bête mais extrêmement parlant, que ne serait-ce que le titre du journal du FLN, El Mujahid, c'était le titre du journal, ne voulait pas dire, comme elle le croyait cette gauche, le combattant, mais en fait le combattant de la foi. Elle pensait que c'était pas grand-chose, que c'était qu'un folklore, quand elle comprenait que, par exemple, ou qu'elle voyait que quand un militant rejoignait le combat du FLN, on disait il a commencé à faire ses prières, c'était l'expression consacrée. Et donc il y a eu tout un tas comme ça de petites choses qui ont commencé à mettre un peu à écorner leur vision du monde à ces militants de gauche. Et puis ensuite, quand ils ont accompagné le pouvoir algérien indépendant, certains ont voulu rester là-bas en espérant construire le socialisme, alors qu'ils étaient français eux-mêmes. Et puis ils ont dû avaler mille couleuvres, prendre des coups, parfois avoir des proches à eux torturés, parce que ce pouvoir islamisait massivement la société algérienne. Et quand eux-mêmes sont rentrés en France, parfois chassés par ce pouvoir de l'Algérie indépendante, eh bien ces militants de gauche ont continué à se taire. C'est toujours cette question du silence religieux qui m'obsède. Ils ont continué à se taire parce qu'ils ne voulaient pas, déjà à l'époque, faire le jeu de l'extrême droite. Or, ce moment est fondateur parce que toute la génération française de 68, ce qu'on appelait la génération 68, qui a tellement pesé et qui continue encore de peser tellement sur notre monde médiatique, politique, intellectuel, bien c'est une génération qui est née en politique, qui est née à la révolte, qui est née à la conscience des affaires communes, etc., et du débat public. Dans la guerre d'Algérie, c'est avec la guerre d'Algérie. J'ai eu récemment, j'étais invité Ruth Solferino pour parler avec les gens du Parti Socialiste. Et il y avait là Henri Weber, sénateur, membre de la direction du PS, qui a raconté que pour sa génération, évidemment, le terrain privilégié de l'entrée en politique, c'est la guerre d'Algérie, c'est la révolte contre la guerre, la torture,
la lutte
etc. Donc le non-dit, voilà, la lutte anticoloniale. Donc le non-dit qui a miné de l'intérieur finalement la prise de conscience politique de cette génération, eh bien nous en avons tous hérité et c'est largement un non-dit sur la religion.
Vous avez mentionné tout à l'heure Michel Foucault. On va écouter l'universitaire François Ewald, qui est l'ancien assistant de Michel Foucault, qui commente les propos de Foucault sur l'Iran pré-révolutionnaire de 1978. Il est interrogé par Laure Adler au Cercle de Minuit sur France 2 en 1994.
D'où cette idée qu'en Iran, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce que voit Foucault en Iran en 1978? Je crois qu'il décèle quelque chose que nous vivrons, que nous vivons nous actuellement, mais qu'il est un des premiers à l'avoir vu. C'est le fait que nous entrons dans une phase qui est, il faut bien préciser le terme, dans une phase qui est post-révolutionnaire. Nous vivons, il sent qu'on vit dans ces années-là, et précisément à partir de l'Iran, qu'on entre dans une histoire, excusez-moi d'utiliser ce terme, on entre dans une histoire qui précisément n'est plus liée par le mythe ou par l'impératif de la révolution, mais qu'autour de l'Iran est en train d'effectuer une certaine basculement vers quelque chose d'autre, et vers quelque chose qui met en jeu dans la politique des éléments qui sont différents, qui ne sont plus sans doute exactement le pouvoir, qui ne sont plus l'État, qui ne sont plus la prise du pouvoir d'État, qui ne sont plus exactement peut-être des thèmes comme l'exploitation ou des choses comme ça, qui avaient tellement, qui étaient à l'époque encore si familiers, et il introduit effectivement cette idée qui à l'époque est un peu surprenante, mais sans partager, comme un problème, mais comme dit-il, comme ce qui ouvre l'actualité et une actualité qui va devenir un problème pour nous, c'est le terme de spiritualité politique. Voilà que la politique, ou ce qui va faire l'actualité politique, c'est quelque chose qui met en jeu la spiritualité des hommes.
La valeur de l'homme, la religion du djihadisme, nous sommes en compagnie de Jean Birnbaum. Là, on voit qu'effectivement, il y a cette idée-là de spiritualité politique. Qu'est-ce que Michel Foucault perçoit en Iran? Il arrive juste avant la révolution, c'est très tendu, il y a des masses dans les rues, etc. Qu'est-ce qu'il perçoit qu'on a perdu de vue aujourd'hui?
Ben, c'est très beau, hein, ces textes, c'est très beau. Et je ne connaissais pas cette archive de François Ebal, elle est superbe. Merci de me la faire connaître. C'est vrai que ce qu'il perçoit, c'est quelque chose de, une chose à laquelle il ne s'attendait pas. C'est un intellectuel, un philosophe occidental. Il débarque en Iran en 78. Il est envoyé là-bas comme reporter. Hein, c'est ce qu'il appelle des reportages d'idées. Il est envoyé par un journal, un grand journal italien. Et donc, il commence à enquêter sur les causes économiques et sociales. C'est son réflexe de base. Il interroge des étudiants, des ouvriers. Il leur demande juste, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est la seule, il leur pose cette question. C'est très beau comme méthode d'enquête. Et il s'aperçoit que 9 fois sur 10, les gens lui répondent, bah, c'est simple, on veut le gouvernement islamique. Donc il est étonné, et puis peu à peu, il comprend que la seule, il appelle ça la poudrière de l'islam, il dit la seule énergie qui est capable de mettre vraiment le feu aux poudres, c'est l'espérance messianique radicale. C'est pas les revendications des droits de l'homme, c'est pas les revendications socialistes ou marxistes qui sont portées par des gens très nombreux là-bas, c'est l'espérance messianique. Et effectivement, il a cette formule, il dit finalement, il y a cette chose dont nous avons, nous autres occidentaux, oublié la puissance, la spiritualité politique, hein. Et il décrit des scènes très belles. J'ai une formule de lui là. Quand les mosquées étaient trop petites pour la foule, il décrit donc l'Iran qu'il a sous les yeux, on mettait des haut-parleurs dans la rue et tout le village, tout le quartier retentissait de ces voix terribles comme ont dû l'être dans Florence, celle de Savonarole, celle des anabaptistes de Münster ou celle des presbytériens au temps de Cromwell. C'est-à-dire qu'il renvoie effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de la sécularisation, de ce qu'on a oublié de la puissance du religieux. Il dit voilà, nous autres occidentaux avons oublie tout ça, et il a cette formule terrible. Il dit, quand il écrit la spiritualité politique, justement, quand il utilise ce mot, il dit, j'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. C'est-à-dire qu'il a conscience que son discours à lui, il ne fait que décrire une réalité qu'il a sous les yeux, et qu'il a l'honnêteté et la loyauté de ne pas refouler, et il se dit, mais au moment même où je vais décrire ça, je sais que les Français vont ricaner. Et effectivement, quelque part, on n'est jamais sortis, nous autres, de ce ricanement. Et si on n'arrive pas à le briser d'une manière ou d'une autre et à reprendre un peu au sérieux la religion, eh bien, je pense qu'on va vraiment, on risque de passer pour très longtemps du rire aux larmes.
Foucault pensait que les Français allaient rire, en tout cas les intellectuels français, parce que pour la gauche, le mot musulman ne renvoie pas à du religieux, mais renvoie à une forme de domination sociale. Et en tout cas, ça ne peut pas être un moteur de l'action politique. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que la gauche voit le musulman comme étant le dominé. Mmh. Et donc, en Iran, il ne peut rien se passer avec le religieux. Or, la révolution arrive et c'est une révolution islamique.
Tout à fait. Et ce qui est le point commun, même si les situations sont évidemment très très différentes entre par exemple l'Algérie et l'Iran, c'est qu'à chaque fois la gauche est encore dans cet état d'esprit qu'elle a parfois encore un peu maintenant, même si c'est de plus en plus périlleux et difficile, c'est qu'elle est persuadée non seulement que le musulman c'est d'abord l'opprimé, mais surtout que c'est pas grave si les opprimés, les dominés empruntent une voie qu'on ne souhaite pas, que la gauche socialiste ne souhaite pas, parce qu'elle sait, mais c'est pas grave du tout, même si elle passe un peu, c'est un détour par la religion ou par la spiritualité politique, c'est pas grave parce que de toute façon la gauche a raison, la gauche connaît les lois de l'histoire, elle connaît la vérité de l'histoire et le sens du progrès, et donc il est sûr et certain que les opprimés en question, à un moment donné, vont ouvrir les yeux et vont se débarrasser de ces oripeaux, justement, dont on parlait tout à l'heure, de ces vêtements, etc. Ils vont déchirer ce voile de la religion et ils vont rejoindre la grande vague, le grand flot du socialisme en marche. Et ça, c'est encore en 79, évidemment, certaines personnes de gauche se disent, bah voilà, les islamistes ou les mollahs font face à l'impérialisme américain. On n'a pas à juger de la voie qu'ils empruntent pour se faire face à cet impérialisme américain qui est évidemment l'ennemi principal, comme on disait. Et donc, il faut les soutenir, les accompagner dans cette révolte, puisque à terme, il est sûr que la gauche, avec sa vérité, avec son matérialisme, etc., pourra polariser et canaliser toutes ces luttes qui, pour l'instant, empruntent des chemins détournés. Et ça a été un espoir pendant très très longtemps à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, le rapport de force est tellement défavorable qu'il y a de moins en moins de gens à gauche qui pensent qu'ils vont pouvoir polariser ces fameuses luttes qui passent par l'islam politique.
En même temps, il y a eu un moment d'une espèce de convergence des luttes anticapitalistes ou anti-impérialistes que vous mentionnez. Alors, il y a une figure de l'extrême-gauche anglaise qui s'appelle Chris Harman, qui signe un livre, une note, en fait, ou pratiquement un livre qui s'appelait « Le prophète et le prolétariat ». Alors, qu'est-ce qu'il disait, Chris Harman? Il voulait des espèces d'alliances ponctuelles avec des mouvements islamistes et des mouvements de gauche. Et puis, tout ça, on a un peu déchanté assez vite. Mais dites-nous un mot de Chris Harman qu'on connaît pas bien en France.
C'est un texte très passionnant, parce que c'est à la fois pas très connu. Parfois, il est cité comme une sorte de manifeste de ce qu'on appelle parfois un peu vite l'islamo-gauchisme, etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un marxiste anglais qui connaît très bien le monde arabo-musulman, etc. et qui donc se demande quels peuvent être les rapports entre le prophète et le prolétariat. Et il dit, puisqu'il est encore dans cet état d'esprit, à un moment donné, il dit toujours « Nous serons toujours contre l'État bourgeois, parfois avec les islamistes, mais toujours contre l'État bourgeois. » C'est-à-dire que il sait que les islamistes sont un danger mortel pour la gauche s'ils arrivent au pouvoir, et en même temps, il pense qu'il faut nouer avec eux des alliances ponctuelles, parce que de toute façon, l'ennemi principal reste évidemment l'impérialisme et l'État bourgeois. Donc c'est un certain moment, c'est-à-dire un certain moment, même si c'est même encore de les années 90. Et en Angleterre, en Grande-Bretagne, ils ont poussé très loin les alliances, ils ont fait des accords électoraux, ils ont défilé bras dessus entre certains groupes de gauche radicale et certains groupes intégristes musulmans. Mais c'est vrai que le raisonnement venait souvent d'une sorte de comparaison qui était faite avec ce qui s'était passé avec la théologie de la libération, qui était quand même une expérience notamment en Amérique latine, où l'extrême gauche ouvrière avait pu nouer des alliances très fortes et réelles avec la gauche catholique, ou une certaine partie de l'Église et fonder des partis ouvriers, fonder des syndicats ouvriers, certains prêtres, certains évêques sont morts, etc., se sont battus. Donc il y avait cette idée que, bon, on a pu le faire avec les chrétiens, 12 autres gauches révolutionnaires, marxistes, etc., pourquoi ça ne marcherait pas avec l'islam politique? Et puis, peu à peu, au fil des années, quand l'islam politique a commencé vraiment à prendre ses aises et puis que l'islamisme a triomphé un peu partout, ces gens ont quand même globalement déchanté, pas tous, mais globalement, en comprenant que contrairement à ce qui s'était passé avec la théologie de la libération et donc avec les chrétiens, eh bien partout où l'islamisme avait triomphé ou a triomphé, eh bien la gauche était au fond du ravin.
On l'a dit, et vous le dites aussi à plusieurs reprises dans votre ouvrage, il y a beaucoup de signes qui montrent que les djihadistes se meuvent dans un univers qui est purement religieux, et vous dites, et on l'a redit un peu ici, il faudrait qu'on s'arrête un instant là-dessus, ils sont dans une temporalité messianique qui les sort du temps séculier. Et donc vous dites à plusieurs reprises qu'ils ne veulent pas changer le monde, ils veulent s'en échapper, c'est-à-dire passer dans une autre temporalité. Dites-nous un mot de ça.
Mais oui, il y a vraiment une volonté d'échapper au calendrier de l'Occident, au rythme de l'Occident, à l'histoire, à la politique de l'Occident qui toute en fait tendent vers cette idée de progrès, vers et donc effectivement chez eux, et ça rejoint une idée de Foucault qui disait que finalement en Iran il y avait une sorte, il appelait ça la grève de la politique. On fait grève, on sort, on s'extrait du temps politique occidental, et en fait on veut abolir l'histoire, on veut instaurer le royaume de Dieu, et on veut dire à l'Occident nous ne voulons plus de vos calendriers, de vos chronologies, nous sommes sur une autre temporalité, nos archives sont souterraines, nous ne sommes pas sur votre scène historique et politique, nous allons rompre avec tout cela. Ce qui fait qu'il y a de grandes différences. Enfin, il y a non seulement une concurrence mortelle, mais même une volonté d'abolir la politique occidentale, y compris qu'elle soit bourgeoise, si j'ose dire, ou libérale, ou marxiste. À chaque fois, l'idée, c'est d'abolir l'histoire telle que l'Occident l'a construite ou rêvée.
Et c'est-à-dire qu'en fait, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même il y a une espérance de cette sortie de l'histoire, notamment chez les plus jeunes. Je voudrais qu'on en dise un mot vraiment en une minute. En France, on part par espoir.
Oui, je pense qu'effectivement, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe si on ne passe pas ces événements, comme le disait Georges Bernanos, l'écrivain Georges Bernanos, au crible de l'espérance. C'est vraiment ma conviction. Le triomphe la montée en puissance du djihadisme dit quelque chose, fait symptôme, dit quelque chose de l'état de l'espérance dans notre monde. Les jeunes filles qui sont élèves en cagne ou en classe préparatoire et qui décident du jour au lendemain de partir en Syrie ne sont pas des gens, je pense, qui se sont réveillés un matin en disant « je suis un monstre, j'ai envie d'aller décapiter plein de gens ». Ce sont des personnes qui disent toujours lutter au nom de la justice, qui disent vouloir voler au secours de leurs frères ou de leurs sœurs musulmans et musulmanes opprimés, etc., et qui reprennent tout un discours anticapitaliste, anti-parlementariste, etc., que la gauche développait jadis, et qui donc développe une espérance dont les conséquences sont sanglantes, dont le visage est souvent hideux, mais qui les met néanmoins en mouvement.
On va s'arrêter sur ces mots, cette émission s'achève. Merci beaucoup Jean Birnbaum d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, qui est publié aux éditions du Seuil en janvier 2016. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. À dans 15 jours pour une prochaine émission.